Le débat du jour. Sébastien Duhamel.
Bonsoir à tous. Une campagne de vaccination qui bat son plein en France et dans de nombreux pays. Le temps du déconfinement arrivé ou espéré, les masques qui tombent, l'été qui approche pour les Européens. Et déjà, d'aucuns observent un certain relâchement sur le front du Covid-19. Pourtant, les variants sont là, alpha, bêta, gamma, autrement dit, britanniques, sud-africains, brésiliens et surtout le delta, le variant indien qui inquiète, jugé jusqu'à 60% plus contagieux que son grand frère britannique. Les stratégies s'adaptent, les criblages se resserrent, mais cela suffira-t-il? Les variants sont-ils à l'heure actuelle une réelle menace? C'est notre débat du jour.
RFI.
Et pour tenter de répondre, pour en discuter ce soir avec nous dans le studio de RFI, Jean-Stéphane Dersin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste en modélisation des épidémies, professeur à l'Université Paris-Nord, directeur adjoint scientifique à l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions au CNRS. Et vous êtes enfin responsable là-bas de la plateforme de coordination de modélisation ModCov19. Avec nous également au téléphone, Mylène Ogliastro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, quant à vous, virologue, directrice de recherche à l'INRAE de Montpellier, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci tout d'abord à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler des variants, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être déjà faire un point sur la situation sanitaire. Jean-Stéphane Dersin, il y a du mieux, on est d'accord, on est, semble-t-il, sur une trajectoire favorable à l'heure actuelle.
Alors tout à fait. Donc effectivement, hein, si ce qu'on observe, c'est le nombre de cas par jour ou l'arrivée à l'hôpital, hein, on est actuellement dans une situation très favorable, meilleure que celle qu'on escomptait. Et donc le timing dans la levée des mesures continue, c'est-à-dire que, comme ça avait été fait depuis longtemps, hein, on prend une mesure et puis, comme on ne sait pas exactement quel va être son impact sur l'évolution, on attend 3-4 semaines avant d'en prendre une autre, et c'est actuellement ce qu'on fait. Donc au niveau du nombre de cas ou de l'arrivée à l'hôpital, hein, la situation est très très bonne. Plus tard, on pourra revenir sur est-ce que cet indicateur est le bon pour la suite de l'épidémie.
Mylène Ogliastro, peut-être un mot là-dessus, vous qui suivez l'évolution des virus de près. On est sur une trajectoire favorable, selon vous, aujourd'hui?
Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Effectivement, si on s'en tient aux paramètres hospitaliers ou au nombre de cas en réanimation, effectivement, la décroissance est très nette. Le nombre de positivités au test l'est également. Donc, compte tenu de ces critères-là, on peut dire que oui, la situation s'améliore de jour en jour. On rajoute effectivement aussi l'augmentation de la vaccination, donc qui est aussi un indicateur qui va dans le bon sens, hein, qui amène effectivement à un allègement progressif des mesures. Mais voilà, comme les scientifiques ont peut-être l'habitude d'être des gens inquiets, on suit de près aussi l'évolution des virus. Et c'est un petit peu, alors on n'est pas encore inquiet, mais voilà, c'est quelque chose à surveiller de près. Ouais.
Justement, de nouveaux allègements qui ont été annoncés aujourd'hui en France. Dès demain, les masques pourront tomber en extérieur. Le couvre-feu sera levé à partir de samedi. Jean-Stéphane Dersin, des mesures, vous le disiez, hein, qui se suivent semaine après semaine, celles-ci, elles vous inquiètent ou alors pas du tout? C'est le moment de lever les masques?
Alors, celle du masque, enfin, la raison pour laquelle le masque avait été pris, c'était aussi une simplification du message. C'est-à-dire que c'est assez compliqué d'expliquer aux gens, vous mettez le masque, vous enlevez le masque. Donc, une des raisons pour lesquelles le masque, en tout temps et en tout lieu, avait été instauré, c'est celle-là aussi. C'est effectivement une mesure qui est simple à comprendre. Parce que, évidemment, hein, quand vous vous promenez sur la plage tout seul et que vous n'avez pas de masque, vous êtes en extérieur, vous êtes censé mettre un masque jusqu'à présent. Hein, oui. Et on est bien conscient que ça importe peu. D'autre part, hein, les différents modes de transmission font que lorsque vous êtes éloigné des gens et que vous êtes donc les gouttelettes passent assez mal, hein, quand vous êtes loin. Et puis, la diffusion par aérosol également, hein, puisque quand vous êtes en extérieur, ça va s'évaporer. Donc tout ça fait que, en extérieur, la raison était, comme je l'ai dit, hein, une raison de simplification pour ne pas avoir à l'enlever et le remettre constamment. Oui. Et puis également parce que à certains moments, lorsque vous êtes proche, et d'ailleurs ça a été signalé, le port du masque va continuer à être obligatoire lorsque l'on fait une queue en extérieur ou des choses comme ça. Donc, en dehors de ces moments-là, effectivement, il n'est pas prouvé que le port du masque diminue de façon sensible la transmission.
Mylène Ogliestro, c'est tomber les masques en extérieur, c'est logique aujourd'hui. C'était effectivement une mesure de simplification, entre guillemets, comme le disait Jean-Stéphane Dersin.
Oui. Et c'est effectivement, on vit davantage dehors aussi avec les beaux jours. Donc, il faudra, là encore, garder... être capable, et je pense que les Français ont appris maintenant les mécanismes de transmission, la distance, comment un virus se transmet d'une personne à une autre. Donc être capable de jauger en fonction de la densité de la population et d'être une foule sur le Champ de Mars pour qui fait la fête, effectivement, ça peut présenter un certain risque de transmission. Donc il y a quand même la distance qui doit, même en extérieur, et la densité de population qui peut, dans certaines circonstances, présenter un certain risque.
Vous nous disiez tout à l'heure, les scientifiques sont des personnes inquiètes. Il y a sur la table la question des variants, c'est ce qui nous réunit ce soir. 5 variants qui sont jugés pour l'heure préoccupants, une dizaine d'autres à suivre ou en cours d'évaluation. Je le disais au début de cette émission, c'est le variant Delta qui est le plus inquiétant, le variant indien. On va reprendre la question tout simplement, Jean-Stéphane Dersin. C'est une réelle menace, ce variant indien, ce variant Delta ?
Alors, ce qui se passe, c'est que, donc actuellement, l'épidémie que l'on observe, c'est un mélange d'épidémies associées à chacun des variants qui est apparu, ou même à chacune des mutations. Oui. Et donc, ce que l'on observe, ce que je disais au début, l'indicateur nombre de cas ou bien taux d'incidence est-il l'indicateur pertinent ? En fait, ce que dit cet indicateur, donc le nombre de cas, c'est le nombre total de cas... tout variant confondu, je dirais. Et on pourrait très bien imaginer avoir une épidémie avec beaucoup de cas, mais qui est en phase décroissante. Et puis à côté de ça, une épidémie qui a très peu de cas et qui est en phase très croissante. La somme des deux apparaît comme étant décroissante, alors qu'en réalité, vous avez une épidémie cachée qui est en train de s'envoler. Et ça, c'est exactement la situation qu'on a connue en janvier, avec l'arrivée du variant alpha, le variant britannique. Où pendant longtemps on a vu une décroissance du nombre de cas, donc qui était plutôt un message rassurant, alors qu'en fait, si l'on observait la sous-épidémie qui était constituée par le variant britannique, eh bien on voyait une envolée.
Mylène Ogliestro, vous partagez cette analyse sur le...
Oui.
Oui.
Oui, tout à fait. Alors, Monsieur Dersin est beaucoup plus compétent que moi en matière épidémio, bien sûr. Et ce qui inquiète un petit peu, là, c'est effectivement les chiffres qui sont un petit peu en train de s'envoler. Enfin, s'envoler, c'est un bien grand mot en Angleterre, mais c'est la dynamique.
Oui, alors, effectivement, la remontée des infections, elles ont triplé en 3 semaines au Royaume-Uni.
Oui, voilà, c'est ça.
8 000 cas en fin
mois,
de semaine dernière.
Ouais, ouais,
effectivement, oui. Ouais.
Et c'est vraiment cette dynamique qui inquiète. Dans un paysage immunologique qui est assez contrasté, avec des gens, certes, beaucoup de gens vaccinés, mais beaucoup de gens vaccinés avec une seule dose, donc qui protègent très peu, au final, contre ce variant-là. On sait qu'il y a des... Alors, même si les mesures ont été réalisées dans des conditions plutôt de laboratoire, on sait que l'efficacité du vaccin, et en particulier du vaccin AstraZeneca à une dose, est beaucoup moins efficace contre le variant indien qu'il ne l'était même contre le variant B1.1.17. Donc voilà, il y a tous toutes ces alarmes qui sont en Angleterre et qui sont effectivement à même d'être des sujets d'inquiétude pour nous aussi, et nous inciter à surveiller davantage encore.
Oui, parce qu'on sait que ce variant Delta, il est déjà présent en France, il est présent aussi en Espagne, en Allemagne, en Belgique. Pourtant, au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a décidé de reporter de 4 semaines, parce qu'ils avaient engagé un déconfinement progressif, donc il est reporté de 4 semaines. En France, on est toujours sur cette tendance de déconfinement. On est sur la bonne tendance, selon vous ? Pourquoi cette décision en Grande-Bretagne et en France c'est juste qu'on n'a pas suffisamment de cas avérés de variant Delta pour s'en inquiéter de la même façon que les Britanniques ?
Alors, on n'a pas du tout le même nombre de cas. Mmh. Le nombre de cas en Angleterre actuellement, c'est 40 000. Mmh. En France, je crois que ça doit être de l'ordre de la centaine, 100 ou 200. modulo quand même le niveau de surveillance. Et est-ce qu'on a, parce que les Anglais ont un niveau de surveillance des virus qui circulent, qui est extrêmement efficace, en tout cas beaucoup plus efficace que le nôtre. Donc voilà, même si on prend en compte le fait qu'on fasse moins de tests du coup, d'une incidence du virus qui serait probablement supérieure à celle qui est actuellement comptabilisée. Voilà, la situation n'est quand même pas la même. Donc, et les gens ont, c'est vrai, envie de sortir. Donc, il y a les facteurs virologiques et puis il y a aussi, et ça c'est le politique qui prend ça, qui prend les décisions, hein, les facteurs sociétaux qui sont importants aussi.
Vous nous disiez que sur certains points le système britannique fonctionne mieux en France. Il y a des critiques effectivement qui sont adressées quant au criblage et ensuite au séquençage. On va d'abord parler du criblage, si vous le voulez bien. Santé publique France nous dit qu'elle va mettre en place un nouveau dispositif, une nouvelle stratégie. Depuis lundi, elle renomme les variants quand elle les trouve. Elle va plus les appeler bêta, gamma. Elle va leur donner des noms. E484K, E484Q. En fait, voilà, pour être simple, ça correspond à la position des acides aminés, les molécules qui constituent les protéines, au niveau de la porte d'entrée du virus. C'est bien ça.
Oui, alors là, c'est une façon d'identifier les mutations qui sont surveillées parce qu'elles vont concerner la protéine Spike, qui est la cible du vaccin. Après, le virus, il a beaucoup d'autres mutations dont on connaît peu mal les effets. Donc, il y a les autres mutations à prendre en compte. Et ça, il n'y a que le séquençage qui nous le permet. Mmh. Alors, il faut distinguer dans le séquençage la surveillance qui est faite, alors qui est développée en France aussi. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être de l'ordre en un mois, je crois qu'on a dû faire 6000 séquences. On doit être à une cinquantaine de mille de séquences depuis le début de l'épidémie. Les Anglais, c'est presque 500 000 séquences depuis le début de l'épidémie. Donc, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Et ce que savent très bien faire les Anglais, au-delà de la surveillance, qui est importante par ce séquençage, c'est de tracer l'épidémie et de faire des analyses un petit peu en temps réel qui permettent de voir l'accélération des mutations. Et c'est ce qui a permis de mettre en évidence ce variant, le variant 1.1.17. En fait, ce qui a inquiété, c'est les mutations qui étaient beaucoup plus importantes, mais surtout c'est sa vitesse évolutive. Et ça, ce sont des analyses derrière qui, à mon sens, ne sont pas assez bien coordonnées en France.
Justement, Jean-Christophe Dersin, on en parlait un petit peu avant cette émission. Il y a peut-être du travail à faire sur ce séquençage. Il y a un projet qui est sur la table depuis janvier, un consortium national sur le séquençage. Il faut vraiment s'y mettre et on a du retard là-dessus en France.
Alors c'est clair, hein, on a du retard, hein, c'est ce qui a été évoqué. Les Britanniques sont bien meilleurs, ils ont un système de surveillance qui s'appelle Cold UK qui a été lancé très très vite après le début de l'épidémie. Donc ils séquencent beaucoup. Et puis surtout ils partagent beaucoup, ce qui permet, comme il a été expliqué, hein, de suivre de façon très précise l'épidémie. Ce qu'on ne fait pas tellement en France. Donc en France, ce plan de surveillance a été lancé en janvier, est confié essentiellement à 4 laboratoires de séquençage en France. On ne sait pas trop non plus quelles sont les séquences qui sont effectuées, c'est-à-dire comment elles sont choisies dans la population, est-ce qu'elles sont choisies de façon relativement aléatoire pour avoir une photo type sondage, ou si les chiffres qu'on voit sont en fait le reflet d'un séquençage concentré à certains endroits qui soit ferait apparaître des clusters, soit à l'inverse fera apparaître des endroits où il n'y a pas de ce type de cas. Donc au niveau séquençage, on n'a pas beaucoup d'informations. Et le criblage, qui est la recherche de quelque chose qui est beaucoup plus précis, donc ne permet pas en particulier de découvrir des nouvelles mutations qui pourraient être inquiétantes, permet en revanche à plus grande échelle le suivi. Et c'est ce qui a été fait pour les variantes dont vous parliez, le britannique, le sud-africain, le brésilien. Pour l'instant, pour l'indien, alors qu'au Royaume-Uni, il est suivi par le criblage depuis déjà un moment, on nous le promet en France et on ne le suit pas. C'est-à-dire que les chiffres qui ont été annoncés hier de 2 à 4 % par le ministre de la Santé, on ne sait pas très très bien sur quoi il repose. Et en plus, comme il a été signalé, ce qui est très très important, c'est la dynamique. C'est-à-dire que ce qui nous inquiétait, enfin ce qui inquiète les Britanniques, c'est qu'ils ont observé qu'ils ont une dynamique de 1,6 fois plus rapide que la souche précédente, donc le variant alpha. En France, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si cet avantage est lié, comme il a été dit, à cause d'un type de vaccination de la population. Donc au Royaume-Uni, ils vaccinent beaucoup avec AstraZeneca, par exemple. Alors qu'en France, on a un type de vaccination différent. Donc on ne sait pas trop. Enfin, on sait que AstraZeneca est moins efficace, mais on ne sait pas si en France, il faut s'inquiéter parce que cette dynamique est aussi multipliée par 1,6, ou bien sur le fait d'avoir une population qui est beaucoup vaccinée par Pfizer ferait que finalement son avantage sélectif n'est pas si élevé que ça. Donc ça, on ne le sait pas et il est urgent de le vérifier. Parce que quand on le verra sur les chiffres d'incidence ou du nombre de cas, eh bien ça sera trop tard. Ça voudra dire qu'on a été complètement envahi par cette souche-là.
C'est une urgence, Mylène Ogliastro, vous êtes d'accord? C'est vraiment l'urgence aujourd'hui?
Oui. Il est vraiment urgent de coordonner toutes ces études, le séquençage de la surveillance qui est assuré, mais l'analyse. Alors le partage des données, ça a été dit, c'est primordial, mais il est également, à mon sens, important en France d'arriver à coordonner les équipes de recherche, parce que les compétences en analyse de l'épidémie, de l'évolution du virus et son suivi précis, on va le trouver dans des laboratoires de recherche, y compris chez des gens qui ne travaillent pas forcément dans le cœur de métier, n'est pas la virologie. Donc ça va être de la biologie des populations, de la génomique, des sciences très précises. Et c'est toutes ces sciences-là qui ne sont peut-être pas suffisamment mises à contribution pour faire ce suivi comme le font les Anglais. Et c'est vrai qu'ils ont d'excellents laboratoires de recherche et qu'ils ont mis au point tout un tas d'outils. Mais on a aussi des personnes compétentes en France dans les laboratoires de recherche qu'on a oublié de solliciter.
Jean-Stéphane Dersin, vous souhaitiez réagir
à ce que vous avez dit ? Oui, tout à fait. Donc moi, je voulais appuyer en ce sens, c'est-à-dire, je parlais de COG UK au Royaume-Uni, donc qui est l'analogue de notre plan de surveillance. Dès le départ, les membres de COG UK, c'est un mélange de chercheurs de plein de domaines. Donc il était mentionné biologie de l'évolution, mais ça peut être des domaines qui sont très très larges autour et qui permettent justement de bien comprendre l'évolution de l'épidémie et pas juste de découvrir des nouveaux variants. C'est bien comprendre ces nouveaux variants, comment ils évoluent, quelle est leur dynamique, faire la phylogénie pour mieux comprendre comment l'épidémie s'est propagée. Et dans le plan de surveillance actuel, cette partie recherche est totalement déconnectée de la partie surveillance.
Manque de transversalité.
Elle intervient pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie recherche qui va, pour certains, donc c'est quand même peu de chercheurs, qui vont avoir accès aux données, mais ils n'interviennent pas en amont en particulier pour orienter la surveillance. C'est-à-dire que la surveillance, elle est confiée à Santé publique France, dont l'expertise et la santé publique, mais pas de l'évolution génomique.
Donc, si on comprend bien, on a aujourd'hui un système faillible dans le suivi de cette évolution des virus, concrètement.
Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, on se prive cruellement de ressources en recherche que l'on a parfaitement en France.
Il est 19h48, ici, à Paris.
Le débat du jour.
Le débat du jour sur RFI, les variants sont-ils une réelle menace? Et pour y faire face, sommes-nous à la hauteur? Je vous propose maintenant d'accueillir Rémi Knafou, professeur émérite de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cofondateur du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Et vous avez écrit, Rémi Knafou, « Réinventer le tourisme aux éditions du Faubourg ». Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Comme le nom de votre livre l'indique, on va maintenant parler d'une des conséquences possibles de ces variants. Il y a des craintes massives sur le tourisme, le secteur du tourisme qui a chuté déjà de 70% durant cette crise sanitaire. Vous pensez que le secteur du tourisme aujourd'hui va mal et ne pourra pas se relever de cette crise de la même façon qu'il en est entré ?
Alors c'est sûr, le secteur du tourisme va extrêmement mal. Partout dans le monde. Je vous parle actuellement d'un pays qui est l'Islande, qui est devenu assez brutalement touristique.
Vous êtes à Reykjavik en ce moment même. Oui.
Voilà. Le nombre des touristes en Islande a été multiplié par 5 au cours des 8 dernières années. Donc c'est considérable. L'Islande a maintenant une économie qui est en partie dépendante du tourisme. Et c'est la raison pour laquelle ce pays qui fait partie de l'espace Schengen a décidé d'ouvrir ses frontières, de réouvrir ses frontières avant les autres, puisque dès le 6 avril, il l'a ouvert aux vaccinés et à ceux qui avaient déjà subi la contamination de ce virus. Moyennant une surveillance à l'arrivée drastique, parce que c'est un pays où il y a peu de cas et où il est assez facile de surveiller, puisqu'il y a
le côté insulaire favorise ça.
Ouais. Qui est là, voilà, c'est une île et la porte d'entrée principale, c'est l'aéroport. Quand on arrive, on est pris en charge par les services sanitaires compétents, avec écouvillons dans l'arrière-gorge, dans le nez, enfin partout où on peut faire le test. Et ensuite, consigne stricte d'avoir à attendre les résultats du test pour pouvoir commencer un voyage en Islande. Voilà, dans un lieu de quarantaine. Alors, en quelques heures, on a la réponse en général, on peut commencer. Mais voilà, le pays donc a éprouvé la nécessité de s'ouvrir moyennant des précautions particulières. Parce que beaucoup de ces entreprises ont investi ces dernières années face au boom touristique et se retrouvent en difficulté. Et ce petit cas d'école de l'Islande, on peut l'élargir à l'ensemble de la planète. Le tourisme est un secteur totalement sinistré, avec d'ailleurs, c'est une catastrophe sans précédent dans l'histoire du tourisme, puisque même les guerres mondiales, à l'époque où évidemment les flux étaient très inférieurs à ce que nous connaissions en 2019, mais même les guerres mondiales n'avaient pas occasionné un tel arrêt des flux touristiques.
Et vous, dans votre bouquin Réinventer le tourisme, vous prônez un nouveau tourisme. Vous dites, si je me permets de résumer, qu'il faut en finir avec le tourisme de masse qui détruit notre planète. Et vous parlez de l'aspect environnemental et sur l'aspect sanitaire également. Ce tourisme de masse, est-ce qu'il est amené à être vecteur de ces épidémies? On pourrait en revoir peut-être de nouvelles à l'avenir. Est-ce que le secteur tourisme se prépare à ça?
Alors, c'est pas tant le tourisme est de masse par définition aujourd'hui, parce que nous sommes sur une planète avec près de 8 milliards d'habitants et une propension de ces habitants de plus en plus grande à voyager, enfin jusqu'en 2019 évidemment. Mais dans tous les grands pays en développement, Chine et Inde en tête, le plus sûr indicateur de l'élévation moyenne du niveau de vie, c'est l'accès aux pratiques touristiques, d'abord à l'intérieur des frontières, ensuite à l'extérieur. Donc le tourisme tel qu'il fonctionnait jusqu'en 2019 dans le monde, il est de masse par définition parce qu'il y a du monde partout. Donc la question n'est pas tant de fustiger le tourisme de masse, mais de le réguler, parce que nous en avons besoin de ce tourisme. Quand je dis nous, c'est nous en tant que touristes, on voit bien que cette privation de mobilité nous coûte. Oui. Et par ailleurs, l'économie touristique, elle est importante parce que ça représente en gros, disons pour simplifier, 10% de l'économie mondiale. Et en termes d'emploi, c'est considérable. Et dans tous les pays. Et la plupart des pays n'ont pas connu la solution française du quoi qu'il en coûte, ou même si l'industrie française du tourisme est en très mauvais état à l'heure actuelle, mais ailleurs dans le monde, c'est encore bien pire. Donc nous avons besoin de repartir, mais en même temps, nous avons besoin de ne pas repartir tout à fait comme avant, c'est ça que je propose.
Vers un nouveau tourisme.
Voilà, il faut que nous soyons davantage conscients des limites de la planète, ça c'est tout à fait évident. Il faut que le système se régule. Il y a des espaces qui ont été créés spécialement pour accueillir des flux considérables de touristes. Ben, ils existent déjà avec des densités très fortes et bon, ils ont le mérite d'exister. La solution n'est pas forcément, comme le prônent beaucoup de spécialistes du tourisme aujourd'hui, d'étaler les flux touristiques dans l'espace et d'envoyer, quand je dis dans l'espace, c'est dans différentes destinations mondiales, et d'envoyer toujours davantage de touristes, y compris dans des lieux où jusqu'à présent où il y en avait très peu. Je ne pense pas que ça soit la très bonne solution. Je crois même qu'il y a des lieux où le tourisme n'a rien à faire. Je fais par exemple écho à mes propositions sur le continent antarctique. C'est un continent qui a la chance d'être
là où le Covid est peu présent, fort heureusement.
Voilà, il est peu présent, encore qu'il y en a eu un des cas dans une base scientifique, mais il n'y a pas d'habitants et il n'est pas approprié. Donc, ça veut dire, quand je dis qu'il n'est pas approprié, c'est que l'argument qui est souvent invoqué lorsqu'on veut développer du tourisme là où il n'y en a pas encore, c'est de dire que ça va profiter à la population locale. En Antarctique, il n'y a pas de population locale. Donc, on pourrait... c'est à la fois symboliquement et écologiquement proscrire le tourisme dans tout le continent antarctique, d'autant plus que les clientèles qui vont soit faire escale, soit survoler en avion le continent antarctique, de toute façon viennent pour l'essentiel de l'hémisphère nord, c'est-à-dire accomplissent des distances parcourent des distances considérables avec des émissions de carbone non moins considérables. Donc voilà, un tourisme sur une planète aussi peuplée, ça doit s'organiser, se réguler mieux que ne le fait l'actuel système touristique.
Le tourisme, on s'y attend cet été, ça a été attendu pour beaucoup d'Européens, les vacances, les Américains également, privés. L'Union européenne d'ailleurs qui accueille de nouveau les touristes américains, Jean-Stéphane Dersin, ces flux de population quand on rouvre les frontières avec des variants qui circulent comme aujourd'hui, c'est le moment de réouvrir les frontières, le contrôle est suffisant ?
Alors ça dépend, c'est le moment pourquoi. Évidemment, la réouverture des frontières n'est pas bonne pour l'évolution de l'épidémie. Ce qu'il faut réussir, c'est à la maîtriser. Et ce qu'il faut voir, c'est que, l'impact dû à l'épidémie, c'est-à-dire les décès ou les hospitalisations, sont pas les seuls impacts, et ça a été souligné sur la vie des gens. Donc tout ça, c'est un arbitrage, c'est-à-dire que moi, en tant que modélisateur, le travail est de remonter le plus d'informations pour éclairer le décideur. Mais le pouvoir, enfin, ce pouvoir de décision reste un pouvoir politique. C'est absolument pas à nous de l'avoir. Et donc, il faut suivre cette évolution et mesurer le risque que l'on prend en ouvrant. Mais d'un autre côté, comme il a été souligné, il est quasiment impossible de décider que on allait tout arrêter à tout jamais.
Mais Mylène Ogliastro, ce tourisme qu'on va sûrement revoir en masse cet été, c'est un vecteur indéniable de circulation de ces variants.
Bien sûr, oui. Alors, il faut aussi se rappeler que l'inégalité face à la vaccination et tout. Les Anglais disent « no one is safe until everyone is safe ». C'est-à-dire que personne n'est à l'abri tant que le monde entier n'est pas à l'abri. Et se rappeler qu'il s'agit d'une pandémie et qu'effectivement, le virus va circuler par les voyages avec des mouvements de population liés au tourisme aussi, et que nous ne serons tranquilles, entre guillemets, que lorsque la population mondiale aura eu accès au vaccin. Et pour l'instant, il semble qu'il y a encore une très grande inégalité face au vaccin. La plupart des vaccins qui vont être produits sont déjà préemptés par les pays les plus riches. Et voilà, ça pose quand même de grosses questions.
Même si certains d'entre eux s'engagent quand même à donner aux pays les plus pauvres, il y a le dispositif COVAX qui reste poussif, visiblement.
Ça reste marginal par rapport aux besoins. Donc il y a un besoin de production, il y a un besoin d'égalité, de l'accès au vaccin pour tous. Et voilà, ça vient en complément de tout ce qui a été dit sur le tourisme et auquel j'adhère. Et voilà, d'un point de vue purement scientifique, il faut également que le monde entier ait accès au vaccin.
Merci Mylène Ogliastro. On arrive déjà malheureusement à la fin de ce débat, 19h58 ici à Paris. Merci évidemment à Jean-Stéphane Dersin qui était avec nous, professeur à l'Université Paris Nord, directeur adjoint scientifique à l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions au CNRS. Je remercie également Rémi Knafou qui est intervenu avec nous, professeur émérite de géographie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur notamment de « Réinventer le tourisme » aux éditions du Faubourg. Merci également à Florence Ponce qui a réalisé cette émission avec Jean-Philippe. Et merci à vous d'être fidèle à la Radio du Monde. Restez avec nous, bien entendu. L'information revient RFI Soir dans une minute. Excellente soirée.
RFI, la sélection du mois. Cher Ibrahim. Yo, lélé, yo, lélé, yo. Mawimbi et Kaogé.